BFM Business et La Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, bonjour, il est 9h, presque 30 et top. Vous êtes en direct sur BFM Business, il est 9h30, c'est les experts. On est ensemble pour une demi-heure de débats et de controverses sur l'actualité écologique et économique du jour, mais qui est aussi un peu une question, une actualité écologique, puisqu'on va parler canicule. Avec cette question, à qui la faute ? Tout le monde se repasse la patate chaude ce matin entre les partis, entre les diverses sphères administratives, l'État, les collectivités locales, écoles inadaptées, hôpitaux sous tension, collectivités sans moyens. Après 20 ans d'alerte, pourtant, l'État et les élus locaux se renvoient la responsabilité. Alors, la décentralisation a-t-elle organisé l'action ou simplement dilué les responsabilités ? C'est ça le premier thème des débats ce matin. Autre alerte sur l'ADEPE. La Banque des règlements internationaux s'inquiète de voir la finance non régulée détenir une part croissante des dettes publiques avec toujours plus de leviers. Alors, la prochaine crise financière viendra-t-elle cette fois-ci des États? Ce sera le deuxième thème des débats aujourd'hui. Et puis, on parlera aussi du crédit privé. Ce marché de près de 2000 milliards de dollars outre-Atlantique, un marché opaque, peu régulé, où les défauts progressent. Est-ce que finalement, ça ne serait pas là les nouveaux subprimes? Ce sera le troisième débat aujourd'hui. Et puis enfin, on parlera euro numérique après l'adoption par le Parlement européen la semaine dernière. L'Europe veut reprendre le contrôle de ses paiements, mais cette nouvelle monnaie protégera-t-elle notre souveraineté ou menacera-t-elle et les banques et notre vie privée? Voilà pour le programme du jour. Il est 9h passé de 31 minutes. Vous êtes en direct sur BFM Business et vous y êtes bien. Allez, c'est parti. Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau François Eckhall. Bonjour François.
Bonjour.
Fondateur du site fipeco.fr. Face à vous, Ryan Nézard, professeur à Sciences Po. Bonjour Ryan.
Bonjour.
Bienvenue sur le plateau. Et Nathalie Janson, qui devrait nous rejoindre d'une minute à l'autre, qui doit être prise dans les bouchons. On l'attend. Allez, je voulais qu'on commence par ce débat. Ce matin, c'est la course à « c'est pas ma faute » en quelque sorte. Hein. L'État dit que c'était aux communes de gérer les écoles primaires, aux départements de gérer les écoles, aux régions de gérer les lycées, les hôpitaux sous tension, c'est pareil, ça reste très compliqué. Tout le monde se renvoie à la responsabilité, mais j'ai posé une question simple, hein. Qui n'a pas fait son travail? La semaine dernière, ça a été dantesque quand même. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans, qu'on nous parle de réchauffement climatique et on se rend compte que le roi est nu. 7% des établissements scolaires, Ryan Nézard. Vous avez travaillé en cabinet à l'éducation nationale, hein, il y a quoi, 2 ans?
3 ans, oui.
3 ans. Est-ce qu'on parlait...
Oui.
Déjà, canicule à l'époque, il me semble qu'il y en avait.
Oui, et puis à vrai dire, c'était un des premiers dossiers dont j'ai eu à connaître. Et c'est vrai qu'il y a un défaut de planification. Donc la responsabilité, elle est collective pour moi, hein, sur ces sujets. Globalement, notre pays, si on devait résumer, est plutôt exemplaire avec l'Union européenne en matière d'atténuation du changement climatique.
Et lutte contre le réchauffement climatique.
Mais en retard sur l'adaptation à ce changement.
Ah, oui.
Et d'ailleurs, il a fallu attendre l'an dernier pour avoir enfin un plan global d'adaptation au changement.
Le PNAC, le fameux PNAC. On a beaucoup d'acronymes.
Vous avez parlé l'acronyme.
La technostructure.
Si vous dites le PNAC avec 2 A. Mais en tout cas, c'est un plan qui visait à se dire comment on s'organise si en 2100, il y a 4 degrés de plus en France par rapport à 1990. Pour moi, il y a 2 points qui sont importants. Le premier, c'est que les moyens sont là. C'est pas vrai qu'on manque d'investissement public. On est aujourd'hui, si on regarde les grands pays de la zone euro, le premier grand pays de la zone euro en termes de dépenses d'investissement public. C'est 2 points de plus que l'Espagne et les Pays-Bas, 1 point de plus que l'Allemagne. Donc pour moi, la question n'est pas...
Alors pour un résultat incroyable, hein, pardon.
J'y viens, j'y viens. Pour moi, la question n'est pas de savoir s'il faut en mettre plus ou moins. La question est de savoir comment on dépense cet argent. Et en l'occurrence, il est mal utilisé et sans doute pas assez d'investissements entre guillemets verts,
oui,
et trop d'investissements qui sont de peut-être moins utiles au pays. Je vais vous donner peut-être 3 exemples de projets qui pour moi illustrent cette responsabilité collective. Premier exemple, c'est le fameux exemple de la gare de Nantes.
Oui.
Vous l'avez vu, inauguré en 2020.
Cité abondamment sur ce plateau la semaine dernière.
Bon, bah, pardon pour la redite, mais trois années de travaux, 132 millions d'euros d'argent public. C'est pour ça que je disais qu'on manque pas de moyens. La question, c'est de savoir comment on les utilise. Et qui, aujourd'hui, est un dôme de chaleur.
Oui.
Il fait 3 degrés de plus dans la gare par rapport à l'extérieur de la gare. Deuxième exemple, l'hôpital de Saint-Lô, qui a été rénové au moment du Ségur de la Santé. Mais à l'époque, certains ont jugé qu'il n'était pas utile de prévoir la climatisation parce que, je cite les réactions de l'époque et des débats qui ont pu avoir lieu, y compris au sein de l'État ou entre l'État et les collectivités, parce que, je cite, les canicules sont rares. Troisième exemple, la place de la République à Paris. Réaménagée il y a plus de 10 ans, en 2014, ça a coûté 24 millions d'euros que du béton.
Oui.
Il y a moins de végétalisation après qu'avant les travaux. Voilà trois exemples qui illustrent la manière dont on utilise mal l'argent public en France. Donc pour moi, la responsabilité, elle est collective. L'État doit planifier et prioriser. Les collectivités et les opérateurs doivent faire les bons choix lorsqu'ils sélectionnent des projets. On pourra revenir sur l'exemple des écoles, mais pour moi, c'est l'exemple typique de qui relève moins d'un manque d'argent public que d'un mauvais usage de cet argent public.
Bon, voilà, hein, ce que nous dit Ryan, François Eckhall, c'est il y a de l'argent et on fait n'importe quoi avec. C'est ce qui nourrit un peu le site de Fipeco assez régulièrement, d'ailleurs, le gaspillage d'argent public.
Mais je suis tout à fait d'accord. Les responsables, qui c'est ? Ben, ce sont tous les propriétaires de bâtiments publics. Et là, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est les milliers de maires et de présidents de conseils généraux, départementaux, tous les élus locaux. C'est l'État, c'est les services de l'État, bien sûr. C'est les ministères pour leurs propres bâtiments, etc. C'est les directeurs des agences, comme on dit, de l'État, qui ont une certaine autonomie de gestion, qui pourraient, voilà, dans le cadre de cette autonomie. Et en effet, les moyens, ils sont là. On les a. Alors après... Aussi, ce que je voudrais dire, c'est que en France, dès qu'il y a une catastrophe, dès qu'il y a le moindre problème, tout le monde finalement se tourne vers l'État en disant, voilà, c'est de la faute de l'État, il faut que l'État fasse quelque chose. Et l'État, la seule chose qu'il peut faire, c'est annoncer des normes ou annoncer des dépenses publiques. Et donc, depuis des dizaines et des dizaines d'années, une des causes principales de notre incapacité à contrôler nos finances publiques, elle est là. C'est que, la seule chose que l'État peut faire tout d'un coup, c'est dire, je vais faire un grand plan de climatisation, j'annonce des dizaines, des centaines de millions d'euros
et des dizaines de milliers de clim, on ne sait pas où va trouver Sébastien Lecornu.
On peut toujours les trouver, comme le disait Ryan, il y a 1700 milliards de dépenses publiques. Le problème, c'est de choisir, mais on ne sait pas choisir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas choisir, ni au niveau de l'État ni au niveau des collectivités locales. Donc on veut toujours faire plus, on aura, alors qu'en fait le risque zéro n'existe pas. C'est vrai que l'argument qui consistait à dire les canicules sont rares, il est vrai. Et on ne peut pas non plus, on ne fera jamais en sorte qu'il n'y ait aucun mort pendant les canicules. De même qu'on ne peut pas éviter qu'il y ait des morts sur la route. Chaque année, il y a des milliers de morts sur la route. Bon, il y a des milliers de morts à cause du tabac, à cause de l'alcool, sans même parler de la drogue. Le risque zéro n'existe pas. Mais tout d'un coup, quand on a une catastrophe comme ça, on dit le risque zéro, ça ne doit pas exister. Et donc, il faut dépenser.
Oui, mais François, ces catastrophes, on les a maintenant à peu près chaque année quand même. Là,
on aurait pu faire mieux, c'est clair, on aurait pu climatiser. Tous les exemples qui viennent d'être donnés, en effet, montrent qu'il y a eu des dysfonctionnements partout, mais les responsabilités sont largement partagées, et il ne faut pas passer à l'extrême inverse, qui consiste à dire on va subventionner des clims dans tous les bâtiments de France.
C'est une question de responsabilité individuelle des dirigeants, ou c'est la décentralisation qui a organisé cette désorganisation ?
Pour moi, c'est pas que un sujet de décentralisation. C'est globalement l'inefficience de notre organisation politique, institutionnelle en France par rapport à d'autres pays. Les canicules, on en a aujourd'hui, on en a de plus en plus. Des événements climatiques extrêmes, comme on dit.
Oui, c'est, et on va c'est en de moins en moins exceptionnel quand même.
Pardon de le dire comme ça, mais c'est la bande-annonce, là, ce qu'on est en train de vivre.
Ouais.
C'est la bande-annonce du 21e siècle.
Ouais.
Donc, il va falloir que notre pays s'y adapte, continue évidemment à l'échelle des négociations internationales, à l'échelle de ce qu'on peut faire sur l'industrie, sur l'usage de la voiture, les transports, le logement, continue évidemment à atténuer ce réchauffement climatique. Il ne faut pas opposer l'objectif de l'adaptation, notamment ces débats qu'on a eu sur la clim.
Non, c'est ça, c'est un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on a tendance à opposer les deux, mais c'est
une très mauvaise idée.
Sur les
faut
deux
faire
gens,
évidemment les deux. Ça, c'est un bon exemple de en même temps, si je peux le dire.
Oui.
Mais donc, mon point, c'est que la responsabilité, je suis complètement d'accord avec François Eckhall, elle est collective et chacun peut faire mieux à son échelle. Je vous donne un autre exemple. La ville de Paris. Alors, on a beaucoup parlé de la ville de Paris au moment des municipales la dernière fois, on en parle un peu moins aujourd'hui. Mais quand même, Cet exemple, s'agissant des écoles, est très parlant. Il y avait, il y a 15 ans, à la ville de Paris, deux fois plus d'investissements pour la rénovation des écoles qu'aujourd'hui.
Ah bon?
Où est passé l'argent? Il n'y a pas moins d'argent sur le budget de la ville de Paris, je vous rassure, elle dépense toujours autant. Mais l'argent est utilisé aujourd'hui pour racheter des appartements privés et les transformer en logement social. Ce qu'on appelle la politique de préemption en matière de logement.
Oui.
Alors, on est pour, on est contre, c'est pas le débat d'aujourd'hui.
Mais c'est un arbitrage de.
Mais
de
c'est mon point.
Bah, l'argent,
un choix a été fait par une majorité qui, par ailleurs, se dit écologiste à Paris. Mais un choix a été fait qui a été de favoriser la production de logements sociaux. En fait, pas la construction nouvelle, mais le fait de repeindre, si je puis dire, des logements privés en logements sociaux, plutôt que de rénover des écoles. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez 300 écoles à Paris qui ont un besoin urgent de rénovation. 300 écoles. Et pas qu'en matière climatique, d'ailleurs, y compris avec des sujets de sécurité. Et ça, c'est un choix qui a été fait. Deuxième, et je m'arrête là, deuxième exemple de choix qui a été fait. Je vous parlais du Ségur de la santé. En 2020, Jean Castex est Premier ministre, met 19 milliards d'euros sur table pour investir dans les hôpitaux. Tout à coup, on se dit, bah enfin, on va pouvoir rattraper le retard qui a été accumulé.
On se demande un peu où est passé cet argent aujourd'hui.
Je vais vous dire, il y a eu 3000 projets qui ont été financés. Moi, j'étais à l'époque au ministère des Finances, j'étais, entre guillemets, de l'autre côté de la table, plutôt du côté de ceux qui essayaient.
Serrer la vis.
Difficile. Mmh. Non, pas de serrer la vis, mais au moins de tenir les comptes. Et à l'époque, on avait une doctrine qui était de dire, bon, il faut peut-être moins de projets, mieux sélectionnés, de meilleure qualité, et en mettant le paquet sur ces projets-là. C'est pas la peine d'aller disperser, d'aller saupoudrer l'argent public. In fine, le choix a été fait de faire 3000 projets, et avec les exemples que je vous citais, des projets inaboutis au plan de l'adaptation au changement climatique. Et je parle pas du fait qu'en matière même sanitaire, certains projets étaient pas tout à fait pertinents. Donc c'est des choix collectifs, mais la bonne nouvelle, c'est que comme on a fait de mauvais choix par le passé, on peut faire de meilleurs choix à l'avenir aussi.
Oui, alors ça, c'est une version extrêmement optimiste que je salue, et je me tourne vers vous, cher François Haeckel, parce que j'ai l'impression de l'avoir entendu, l'efficacité de l'euro dépensé, on l'a entendu mille fois. Mmh. Davidia nous dit là, n'hésitez pas à réagir sur mon compte X, @legendra, mais nos dirigeants ne semblent pas connaître la notion de coût d'opportunité. Un euro est plus efficace dans l'adaptation que dans la lutte contre le réchauffement. Ce dont nous parle Ryan Nézard là, c'est un peu ça, c'est quelle est l'efficacité de l'euro dépensé? Où est-ce qu'on va mettre l'argent pour que ce soit efficace? Ça fait 20 ans que j'entends parler de ça, moi François, et je pense que vous aussi.
Alors c'est vrai qu'il y a un débat entre l'adaptation au changement climatique et l'atténuation du changement climatique qui n'est pas simple. C'est vrai, l'atténuation du changement climatique, ça veut dire prendre des mesures de limitation des émissions de gaz à effet de serre, de sorte que globalement, la planète se réchauffe moins. Sauf que la France n'est qu'un tout petit émetteur de gaz à effet de serre.
Moins de
1%, on est plutôt bon parce qu'on a une électricité qui est nucléaire, qui est décarbonée. Et ce qu'on peut faire n'a pas beaucoup d'effet sur le réchauffement de la planète. Alors qu'en revanche, quand on prend des mesures d'atténuation, ça a un effet direct sur notre bien-être, parce que ça permet en effet d'atténuer les conséquences négatives du réchauffement à travers des canicules, des événements climatiques extrêmes, etc. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire en matière d'atténuation. Nous avons collectivement, en tant que pays riche et développé, une responsabilité collective dans ces émissions de gaz à effet de serre et dans le réchauffement de la planète. Donc, même si notre action propre ne compte pas pour beaucoup dans l'ensemble aujourd'hui, il faut le faire, parce qu'on ne peut pas demander à des pays pauvres en développement de faire des efforts que nous pouvons faire. Donc, c'est une responsabilité morale, en réalité, que nous avons. Il y avait dans le rapport qui fait référence de Jean Pisani et Selma Mafou, je crois qu'il parlait d'impératif kantien. C'est-à-dire, on renvoie, c'est quasiment moral.
Oui.
Voilà. Donc, et je pense qu'il faut le faire, en effet. Oui. Nous avons cette responsabilité devant nos générations.
Pas l'autre. Moi, c'est ça qui m'étonne toujours.
Voilà, ça n'exclut pas l'autre. Mais c'est vrai que, dans certains cas, à certaines époques en France, certains politiques ont mis en avant cette responsabilité en matière d'atténuation pour dire, ça doit passer en priorité, et puis l'adaptation au changement climatique, ça, c'est secondaire, faut pas trop en faire parce que on risque d'oublier notre responsabilité en matière d'atténuation. Donc, en effet, on a eu ces comportements-là et malheureusement.
Aujourd'hui encore, si on
aujourd'hui peut... encore. Aujourd'hui prenez encore, certains ont en effet tiennent ce discours.
Prenez l'exemple du Parlement européen. Je trouve que c'est très intéressant comme débat parce que vous avez depuis maintenant un peu moins d'une dizaine d'années des accords commerciaux négociés par la Commission européenne et signés au nom des États,
oui,
qui prévoient que le respect des accords de Paris de 2016, oui, fameuse COP 21, est une condition pour la réciprocité et le libre-échange. Et l'exemple un peu typique, le premier exemple, c'était l'accord de partenariat avec le Japon, signé en 2018 ou 2019, je vous dis ça de mémoire. Et régulièrement au Parlement européen, il y a un débat. Parce que le Parlement peut pas amender les accords commerciaux, mais il peut, il a un droit de veto. Et le Parlement, souvent, vous avez des groupes d'extrême droite qui disent non, non, mais il faut s'opposer à ces accords. Mmh. Il faut pas ces clauses de réciprocité en matière d'écologie. Mmh. Il faut pas les clauses miroirs. Il faut s'opposer à ces accords. Et de manière générale, ils ont d'ailleurs un rapport au libre-échange qui est plutôt protectionniste pour ce qui les concerne, et qui, en même temps, vous disent aujourd'hui, il faut mettre la clim partout. Et donc, il y a une forme de contradiction, c'est-à-dire que évidemment, il faut des politiques d'adaptation beaucoup plus ambitieuses en France, et on est très en retard sur la clim, mais comme sur d'autres sujets, comme sur la végétalisation. Au fond, on est en retard sur le droit à la fraîcheur, oui, de notre société. Ça, c'est vrai. Mais ça n'exclut pas le fait qu'on a une responsabilité, François Eckel le disait, qui est historique dans le réchauffement climatique, qui est liée à notre activité industrielle depuis le 19e siècle, et qu'on doit aussi participer.
Qu'on a délocalisé aussi très loin.
Y compris aujourd'hui avec l'empreinte. Avec l'empreinte qui fait qu'on n'émet pas sur notre sol,
oui,
mais ce qu'on consomme sur notre sol est produit ailleurs et émet des émissions de gaz à effet de serre ailleurs sur la planète. Et donc aussi dans la politique commerciale des pays européens, c'est normal de tenir compte de cet impératif écologique. Il faut avancer avec les deux, et c'est comme ça que notre société pourra enfin peut-être se réveiller et s'élever face à ce défi qu'est le changement climatique.
Moi, je trouve que ce que ça a montré, cette crise la semaine dernière aussi, c'est l'écart béant entre l'inefficacité parfois de l'action publique et l'entreprise qui, elle, tient debout. Et c'est un peu ce que dit Zoé Kipé, là, sur mon compte Twitter, votre interlocuteur qui parle du rôle de l'État. C'est la planification et faire les bons choix et digne des heures les plus sombres de l'histoire de l'URSS. Cher François, c'est pour vous.
Oui.
Parler liberté et entreprise privée. C'est vrai que c'est un peu ce qu'on a vu la semaine dernière. Alors, l'État, il est là hein, pour édicter des normes, quand même, oui, et pour organiser l'action publique. Oui, bon, évidemment. Mais quand on voit des entreprises comme Pluxee, comme Google, qui ouvrent leurs portes ou d'autres hein, qui ouvraient leurs portes à leurs salariés avec des salles dédiées avec la clim et venez, emmenez vos enfants, on va s'en occuper. J'ai trouvé le contraste saisissant, personnellement.
Les entreprises ont des objectifs relativement simples. L'objectif d'une entreprise, c'est de faire du bénéfice, c'est de faire des profits, voilà, pour ses actionnaires.
Oh, c'est et un peu plus ça, que ça,
oui,
aujourd'hui.
Oui, mais pour ça, elle est obligée de tenir compte de ce que veulent ses stakeholders, comme
oui,
on dit.
Oui, ses parties prenantes.
Et dans ces parties prenantes, il y a d'abord les clients. Donc, il faut satisfaire les clients. Donc, oui, les centres commerciaux, ils sont climatisés.
Oui.
Parce que ça attire les clients.
Et oui. Et
donc,
oui.
C'est très simple.
Et oui. C'est bon pour les soldes.
Voilà.
Pour les commerçants aujourd'hui.
Dans famille.
Exactement.
Voilà.
Comme quoi, c'est un très bon moteur de bien-être général.
C'est un moteur de bien-être. Alors que l'État, lui, il a l'intérêt comme objectif l'intérêt général, mais l'intérêt général, c'est multidimensionnel.
Oui.
Ça prend plein de formes, c'est plein d'objectifs différents et éventuellement des objectifs contradictoires. C'est pour ça que la planification, enfin moi je pense qu'on n'y arrivera jamais, on n'y est jamais arrivé. La planification c'était simple, à une époque pendant les Trente Glorieuses, où
oui,
il s'agissait de faire des poutrelles d'acier de même standard et d'imiter la technologie américaine. C'était très simple, donc on l'a fait pendant un certain nombre d'années, ça a marché. Notre programme nucléaire, dont on dit que c'est une très grande réussite
de Pierre Messmer, notamment, qu'on cite beaucoup en ce moment.
Voilà, on oublie que, en fait, on a acheté la licence américaine de Westinghouse et que les centrales nucléaires françaises, c'est des copies conformes des centrales américaines.
Ah oui.
Voilà. Exactement.
Ah bah
j'ai entendu un ancien président de NEF qui disait, dans chaque boulon d'une centrale nucléaire française, il y a le même boulon dans une centrale américaine. On n'a rien inventé, on a tout copié. Voilà. Donc ça, on s'est fait. Voilà.
Et ça a été très efficace en même temps. Bon,
mais voilà, aujourd'hui, dans un monde où il faut innover, où il faut s'adapter à l'intelligence artificielle, etc., ça marche beaucoup moins. Voilà.
Oui. Bon, j'ai une question intéressante de Nolan Rimbaud, et c'est une question que j'ai beaucoup entendue, qui se demande ce qu'on a fait de l'argent de la journée de solidarité qui avait été mise en place après la canicule de 2003. Je le rappelle, 15 000 morts à l'époque, je veux dire, ça date. Hein. Jacques Chirac, sommet de la Terre de Rio en 2002, notre Terre brûle et nous regardons ailleurs. 2003, 15 000 morts, on est en 2026, ça n'a pas avancé. Mais Ryan, qu'est-ce qu'on a fait de l'argent, des recettes de la journée de solidarité?
Bah, ça finance les EHPAD et les aides à domicile, mais ça ne finance pas spécialement l'adaptation. Donc typiquement, le choix de mettre une climatisation dans un EHPAD, ce qui devrait relever du bon sens,
bah oui.
Relève en fait des directions.
Des directions des EHPAD. Non, mais c'est ça aussi.
Que ce soit public ou privé. Et c'est pas, c'est pas l'État.
Oui.
On peut imaginer le Big Brother, hein, mais c'est pas l'État depuis un bureau à Bercy qui va décider de mettre une climatisation dans tel ou tel établissement. Encore une fois, il y a une responsabilité collective et quand on est dirigeant d'un établissement public ou privé, on prend ses responsabilités. Juste un dernier point sur la planification et le oui. rôle de l'État. Il y a quand même, je vais défendre la puissance publique, il y a quand même un rôle qui doit incomber, alors on dit l'État, ça peut être d'autres acteurs publics, mais qui doit être un rôle collectif, qui est le fait d'adapter les formations et d'adapter le contrôle qualité des entreprises. Par exemple, en matière de rénovation énergétique, vous avez besoin, pour rénover vos bâtiments, publics ou privés, d'avoir des gens qualifiés, des gens formés pour ce faire. Or ça, ça commence dès l'école.
Ben oui.
Ça commence ensuite dans l'enseignement, qu'il soit professionnel, technologique, supérieur ou autre. Et ensuite, c'est tout au long de la vie avec l'organisation de la formation professionnelle. Vous pouvez pas le faire si vous n'avez pas une puissance publique. Deuxième exemple, parler du contrôle qualité, la certification des entreprises qui font de la rénovation pour s'assurer que vous n'avez pas affaire à des fraudeurs,
oui.
vous n'avez pas affaire à des gens qui n'ont pas, là encore, les qualifications, la formation. Ça aussi, ça doit relever d'une forme de puissance publique. Alors, on peut déléguer ça à une entreprise privée, mais il faut quand même qu'il y ait une réglementation. Donc, il y a quand même un socle minimal, si je puis dire, qui fait qu'on a besoin, pardon, je me fais l'avocat de la puissance publique, mais on a quand même besoin pour réussir la transition.
Il faut zéro État non plus.
Oui.
Simplement,
c'est
peut-être
important
simplement
de le rappeler. Après, l'État ne peut pas tout et ne doit pas tout, et clairement, les entreprises jouent aussi leur rôle.
Bon. Nathalie Janson nous a rejoint. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
On va avancer, parce que l'État aussi a quand même plus beaucoup d'argent dans les caisses. Et on va parler de la dette, justement, avec ce rapport dont personne ne parlera. Là, toute la classe politique est occupée à se tirer dans les pattes pour savoir à qui la responsabilité dans la canicule. C'est le rapport annuel de la Banque des règlements internationaux. Alors, pour rappeler à tout le monde ce qu'est la Banque des règlements internationaux, elle n'est pas connue du grand public, on en parle nous souvent sur BFM Business quand même, on reçoit ses dirigeants, c'est la banque centrale des banques centrales. C'est un peu comme ça qu'on l'appelle, Nathalie. C'est une institution extrêmement importante pour la régulation de la finance mondiale. Tous les grands argentiers de la planète consultent avec intérêt ce rapport annuel. Qu'est-ce qu'il nous dit ce rapport ? Cette année, il tire la sonnette d'alarme sur la dette publique. Grosso modo, il nous explique que le marché obligataire de la dette publique est de plus en plus fragile. Pourquoi ? Parce qu'il y a de plus en plus de hedge funds, de fonds spéculatifs qui achètent de la dette privée publique avec effet de levier et que ça peut swinguer très rapidement pour les États qui ne feraient pas ce qu'il faut. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça veut dire que nous, moi c'était mon édito ce matin, mais l'OAT française peut devenir le nouveau subprime ? Un pays très riche normalement, septième puissance économique mondiale, très safe, on peut lever l'impôt, oui, sauf que on a des finances publiques à la dérive, on a un modèle social qui nous coûte très cher, on n'est pas loin d'un risque de crédit sur la banque de la Sécu aujourd'hui, on a un PIB qui stagne et des agences de notation qui nous disent de plus en plus que, bah, en France, lever l'impôt, ça devient un peu compliqué. Alors l'OAT française, nouveau suprême ou pas ?
Alors ça pourrait devenir, on peut oser la comparaison en effet si on a un problème
un peu provocatrice,
si on a un problème d'évaluation, parce qu'il faut se rappeler qu'en fait l'essentiel de subprime, c'est pas tant des montages compliqués et très risqués, c'est le fait qu'ils étaient, ils n'étaient pas correctement évalués. En fait, il a été là le nœud de la crise. C'est
bah
parce
oui.
qu'il y a eu une, en fait, une.
Et
une,
des crédits notés triple A avec des petits morceaux pourris à l'intérieur.
Oui, c'est souvent le cas lorsque il y a des nouveaux instruments financiers, ce qui était le cas, les fameux CDO.
CDO Square, au cube,
voilà,
auquel plus personne ne comprenait rien.
Voilà, dans lequel on a logé des subprimes qui eux-mêmes étaient mal évalués. Ils auraient pu être correctement évalués, mais leur modèle de base, ils ont été agglutinés avec des prêts normaux,
c'est-à-dire
accordés à des prêts hypothécaires à des gens normaux. Et là, c'est pour ça qu'il s'en est suivi une crise. Aujourd'hui, en fait, il faut qu'on traite donc le problème de la dette française sous le même angle, c'est-à-dire est-ce qu'effectivement il faut s'inquiéter d'une déconnexion entre
oui.
la vraie valeur,
la notation,
la vraie valeur et la valeur de la dette française. Alors, il peut y avoir des sujets d'inquiétude parce que on a eu alors plutôt en notre faveur. Maintenant, une réévaluation de ce qu'a pu être la croissance. Donc, ça veut dire que si on réévalue la croissance, on peut absolument aussi se tromper
croissance
dans
l'autre sens. De 2023 sens. Et 24, oui.
Voilà. Donc là, c'est plutôt à notre, effectivement, notre faveur. Mais voilà, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème d'évaluation aussi dans l'autre sens? Et on l'a déjà vu, puisque plusieurs fois, on a été surpris, entre guillemets, en tout cas le gouvernement, du montant du déficit public. Donc, ça veut bien dire que ça marche dans les deux sens. Donc, c'est surtout à ce niveau-là. Alors, effectivement, la raison aussi pour laquelle on s'inquiète, c'est qu'il faut savoir que c'est les grands argentiers de ce monde, dont la BRI, qui a aussi favorisé ce qu'on appelle la centralisation au niveau des marchés des produits dérivés, avec ce qu'on appelle les chambres de compensation centralisées, qui ont donc mis le titre public au devant de la scène, puisque maintenant il est collatéral de tout. Donc, en effet, comme il est collatéral...
On rappelle ce qu'est un collatéral, voilà, pour ceux qui nous
alors
écoutent.
Alors, ça veut dire qu'au lieu d'emprunter directement
sur le marché...
Un dépôt de
garantie, en quelque sorte.
C'est-à-dire que moi, au lieu d'emprunter Nathalie Janson, et on va me faire une évaluation de mon de quelle est ma note de crédit, ça, c'est ce qu'on faisait avant, assez systématiquement, eh bien, moi, je vais venir emprunter, je vais amener avec moi une obligation de une OATA à 10 ans, et je vais dire, je vous la donne en garantie. Donc, comme maintenant, ce n'est plus moi qui suis l'objet de l'évaluation, mais cette OAT. Cette OAT étant, pour le moment, effectivement, considérée comme relativement safe, eh bien, on va me prêter plus facilement, et je bénéficie de meilleurs taux. Voilà, c'est ce qui s'est... Il faut savoir que depuis 2008, les marchés, globalement, sont sur ce type de pratique.
Ce qui le rend plus stable.
Alors, c'est effectivement, c'était l'idée. On ne voulait plus effectivement de contractualisation gré à gré, ce qu'on appelle gré à gré, basé sur l'évaluation de l'autre, parce que c'est ce qui s'était passé avec, ça avait donné Lehman Brothers et la surprise des
OTC, c'est-à-dire qu'une banque à l'autre, sans garantie.
Comme on ne savait pas
coup,
sa position globale.
Quand une banque fait défaut, ça tombe en domino derrière.
Donc, on a voulu, en fait, avoir un système plus lisible et on s'est dit, on va les mettre dans des chambres de compensation et les chambres de compensation, elles fonctionnent essentiellement sur de la collatéralisation.
Bon. Voilà. François Eckhall, est-ce que ça a stabilisé? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes inquiet, comme la BRI, de que la prochaine crise financière puisse venir des dettes publiques?
Alors, c'est possible, oui. Alors, si on prend le cas de la dette française, qui nous intéresse quand même plus particulièrement, elle est devenue hors de contrôle, au sens où, pour arriver simplement à la stabiliser en pourcentage du PIB, même pas en euros, il faut faire un effort qui est colossal et qui, dans le contexte politique actuel français, on ne fera pas.
La dette est hors de contrôle, vous nous dites aujourd'hui, voilà. François Eckhall.
Les économistes disent généralement que pour la dette publique soit soutenable, il faut qu'on puisse montrer qu'on peut arriver à la stabiliser à un certain horizon. Je pense qu'on ne peut pas montrer qu'on peut l'arriver, on n'y arrivera pas. Mais, par ailleurs, on emprunte encore très facilement. Oui. On emprunte à un taux d'intérêt. Le marqueur de cette incertitude, de ces risques, c'est l'écart de taux d'intérêt entre les obligations françaises ou italiennes ou espagnoles et allemandes supposées
sans risque. Ce qu'on appelle
le spread. Le spread. Ce spread, il a un peu bougé, mais il est très limité. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu dans les années 2011-2012. Pourquoi ? Parce que depuis cette époque, les marchés savent que la BCE est là, dans le paysage, qu'elle a les moyens d'acheter en quantité illimitée les titres d'un pays comme public, d'un pays comme la France, l'Espagne, l'Italie, etc. Et donc, elle peut casser à tout moment n'importe quel mouvement de hausse des taux d'intérêt. Voilà. Et par ailleurs, la France est too big to fail. On n'imagine pas aujourd'hui un défaut de paiement que la BCE laisse la France faire défaut. Et donc ce spread, il mesure la probabilité d'un défaut de paiement. Cette probabilité, on pourra dire, elle est nulle. Donc le spread, il devrait être de zéro. Il n'est pas totalement, parce que en fait, et un jour les marchés se rappelleront peut-être, que la BCE ne peut pas intervenir automatiquement. Elle ne peut pas, certes, d'un côté, un défaut de la France, c'est une catastrophe, mais d'un autre côté, une dette publique française qui augmente indéfiniment, qui bientôt dépassera celle de l'Italie. L'Italie est encore devant nous. Oui. Celle de la Grèce, qui va continuer.
Enfin, on approche dangereusement les 120%, là.
On fait des projections à politique inchangée dans lesquelles elle monte à 200% du PIB en 2040. Hein. Donc, la BCE ne peut pas non plus accepter ça. Et le jour où les marchés se diront « c'est pas possible, elle n'interviendra pas », à ce moment-là, en effet, le spread augmentera.
On sera attaqué.
Et à ce moment-là, il y aura un problème.
Et avec des fonds spéculatifs de plus en plus grand nombre sur le marché. Ryan, un dernier mot.
On a le temps de développer ou...
On a deux minutes.
Non, mais le risque aujourd'hui sur la dette française, c'est moins celui, en effet, d'un arrêt cardiaque soudain, c'est plus celui d'un étouffement en fait, progressif. C'est-à-dire que cette dette aujourd'hui est plus exactement la charge de la dette, c'est-à-dire ce que le pays rembourse chaque année au titre des intérêts à ses créanciers, est en train de devenir quelque chose qui évince totalement nos priorités. En 2026, l'évaluation, c'est qu'à peu près 2,5% de notre richesse nationale sera consacrée à rembourser les intérêts de la dette.
77 milliards. En cinq, en quelques années, depuis le Covid, on est passé de 30-35 à 77 milliards, bientôt 100 milliards en 2029.
Exactement. Et donc, d'ores et déjà, on paye davantage pour rembourser les intérêts que pour investir dans l'école ou dans la défense. Vous l'avez dit, en 2029, la dette représentera une charge de plus de 100 milliards d'euros, assez mécaniquement, parce qu'il va falloir refinancer la dette Covid, celle qui a été levée pendant la crise sanitaire, avec des taux beaucoup plus élevés aujourd'hui qu'hier. Mais en réalité, cet argent, il ne sera pas investi dans l'école, il ne sera pas investi dans la santé, il ne sera pas investi dans l'effort de défense, ni dans l'écologie dont on parlait tout à l'heure. Et tout ça dure depuis 50 ans. Ça fait 50 ans qu'on est en déficit. Je vous demandais si on avait un peu le temps, parce que j'aimerais vous raconter une anecdote sur les retraites.
Rapidement.
Ouais, je vais essayer rapidement.
Bon alors, on va couper. Allez, coupure pub et puis on prend l'anecdote, le teasing de l'anecdote des retraites juste après la coupure pub. Restez avec nous. Ça vaut son pesant de cacahuètes. À tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 10h passé de 2 minutes. On est de retour pour la seconde partie de l'émission des experts avec aujourd'hui Nathalie Janson, professeure d'économie à Neoma Business School, présidente du think tank Génération Libre, François Eckal, fondateur de Fipeco.fr, et Ryan Nézard, professeur à Sciences Po. On s'était quitté juste avant la coupure sur une promesse d'anecdote sur les retraites. Ryan, on vous écoute.
Non, mais oui, juste pour faire bref, il y a deux principales dépenses publiques qui font à peu près la moitié des dépenses publiques, c'est les retraites et la santé. Sur les retraites, vous vous souvenez qu'en 2024 avait été décidée une revalorisation de plus de 5% pour les
l'inflation avait été très importante en 2023.
De l'inflation, et ça a coûté plus de 15 milliards d'euros aux finances publiques.
Et oui.
Avec, et je crois que c'est l'INSEE qui l'a évalué, in fine, en fait, plus de la moitié de cet argent qui a abondé l'épargne des retraités.
Les trois quarts. Je crois que c'est 75% de ces augmentations ont fini sur les livrets d'épargne des retraités.
Exactement. Et d'ailleurs, de tous les retraités, y compris les retraités plutôt modestes.
Oui.
Donc, ce qui fait que, en fait, la question, rétrospectivement, on peut légitimement se poser de savoir si c'était une bonne décision ou pas et pourquoi la décision a été prise. Moi, il se trouve que j'étais conseiller à Bercy, conseiller ministériel à ce moment-là. C'était Gabriel Attal et Bruno Le Maire qui étaient ministres. Et bien, figurez-vous qu'en fait, la discussion a eu lieu à l'été 2023 de savoir s'il fallait ou pas revaloriser les retraites en janvier 2024. Et la proposition avait été faite au ministre de ne pas les revaloriser complètement. Justement, pour tenir compte de ce coût pour les finances publiques.
Je rappelle que la réforme bande de 2023, au même moment, c'est 15 milliards d'économies à horizon 2030.
Exactement.
C'est-à-dire qu'en une signature, on a mis la France à feu et à sang pendant 6 mois, et en une signature, 6 mois plus tard, on a réduit à zéro les économies de la réforme.
Il y a d'autres enjeux avec une réforme des retraites liée au décalage de l'âge, l'emploi des seniors, mais en effet, en termes budgétaires, c'est plutôt équivalent. Et les ministres étaient pour. Et la première
alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Le président de la République, alors moi j'étais pas à la réunion, mais le débat était ouvert en tout cas. Et ils ont eu mandat, les ministres, de sonder les parlementaires. Parce que vous savez, pour ne pas revaloriser les retraites, il faut passer par la loi.
Oui.
Et donc il faut passer par un budget. Et donc il faut avoir une majorité. Ou en tout cas, faire un 49-3 et pas avoir de censure. Puisqu'à l'époque, il n'y avait déjà pas de majorité absolue, c'était une majorité relative. Et donc les ministres se tournent vers tous les groupes parlementaires, entre guillemets, hors parti extrême, qui de toute façon voulait censurer le gouvernement, Parti socialiste, les écologistes, les républicains, etc. Et tous disent, ah mais jamais, moi je ne voterai jamais cet article de loi, si vous ne revalorisez pas de 5% les retraites, je censure le gouvernement et on le fera savoir publiquement. Et donc aucun parti n'était prêt à faire finalement un compromis, comme les Allemands le font quand ils ont des coalitions, y compris sur cette question difficile des retraites, comme les pays scandinaves le font sur cette question des retraites, et comme, j'en termine par là, les partenaires sociaux le font lorsqu'ils gèrent la GRCARCO, où ils décident, pour avoir un montant suffisant de réserve sur les retraites, parle de réserve, nous parle de déficit, pour avoir un montant suffisant, parfois de ne pas revaloriser totalement à l'inflation. Donc vous voyez, c'est juste une anecdote que je permettais de vous partager, qui montre encore une fois que la responsabilité est collective, et que finalement il va falloir un sursaut. C'est même pas patriotique, mais en tout cas un sursaut pour comprendre que cette question de la dette ne se réglera pas uniquement par un gouvernement, un parti politique ou une majorité. Il va falloir un effort national.
Ça prendra des années, tout le monde devra participer, effectivement.
Ça peut être assez rapide, ça peut être rapide. Pas forcément des années.
C'est du pluriannuel.
Il faut des décisions.
Quand même, hein, mais effectivement. Et le rôle d'ailleurs des Républicains qui prônent la rigueur budgétaire dans cette histoire des retraites,
C'est pas pour stigmatiser les uns les autres, encore
ouais,
une fois,
mais
tout le monde
si,
a été...
Parfois, on peut, parce qu'il y a des enjeux politiques qui coûtent extrêmement cher à l'ensemble du pays pendant des années.
C'est aussi une belle illustration de la théorie des choix publics, encore une fois. Puisque là, c'est pour une histoire de votants, ils ont dit non.
Donc, exactement.
Ben, je dirais, il faut vraiment que les jeunes votent. Ça ferait des contrefois.
Exactement. Nathalie, je continue avec vous sur le crédit privé. La crise du crédit privé dont on vous parle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant sur BFM Business. Le crédit privé va-t-il provoquer la prochaine crise financière ? Voilà le thème du nouveau débat depuis plusieurs mois. Les alertes se multiplient autour du crédit privé aux États-Unis, un crédit qui a explosé depuis la crise financière de 2008. Nathalie, d'abord, c'est quoi cette histoire de crédit privé ? Soyons très pédagogiques ce matin.
Oui, alors là, on a affaire à une structure du système de financement aux États-Unis qui n'est pas la même qu'en Europe. Donc en Europe, on a l'habitude que le crédit, que les banques fassent du crédit oui. à des petites, moyennes entreprises, mais également à des grandes, directement. Et elle se finance sur le marché bien moins. Donc voilà, comme on le sait, le financement par marché en France est assez limité. Il est bien inférieur à 50%.
On dit souvent que c'est d'ailleurs les ratios sont inversés. C'est 70% de financement par les marchés aux États-Unis, voilà. Quand chez nous c'est 70% de financement intermédiaire, c'est-à-dire au travers des banques, des marchés financiers beaucoup moins développés.
Donc en raison de cette différence, les banques américaines n'ont pas la même place. En fait, ce sont des institutions qui vont finalement faire du crédit, mais qui vont le vendre. Donc il va y avoir un marché, effectivement, du crédit. Mmh. C'est ça, le crédit privé. C'est tout simplement, encore une fois, de la titrisation. Donc on va mettre ensemble des prêts accordés à des entreprises dans des véhicules que l'on va vendre sur le marché. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas à avoir plus peur que ça.
Voilà, c'est un fonctionnement plutôt bien. C'est un marché de 2 000 milliards de dollars aujourd'hui.
Voilà, qui fonctionne très bien.
Voilà. Alors pourquoi on a peur ?
Alors on a peur parce qu'à nouveau, c'est des problèmes d'évaluation. C'est-à-dire que si ces fameux produits titrisés n'ont pas été correctement évalués au départ, eh bien, effectivement, à nouveau, vous pouvez avoir des surprises sur l'évolution de la valeur du portefeuille. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une partie des titres sous-jacents qui, en fait, ne performent pas, en tout cas, ne sont pas remboursés. Et évidemment, ça veut dire que ce portefeuille en particulier, eh bien, va revoir sa valeur de façon très brusque, brutale, puisque du coup, on va prendre en compte le fait que c'était pas aussi bien qu'on l'avait pensé au départ. Donc, et c'est ça qui est arrivé. Donc, c'était une des alertes les plus grandes avait été sur Blue Halls, il y a quelques mois peut-être, parce que le temps passe
quelques
vite.
Mois maintenant, oui.
Oui, et où effectivement c'était un peu leur spécificité était beaucoup effectivement sur l'IA, sur la tech, et en effet quand on a des produits titrisés qui sont peut-être un peu trop sectorisés et que en particulier on est sur des nouvelles entreprises, donc à nouveau c'est toujours la même chose, comment évaluer une entreprise naissante, c'est plus compliqué qu'une entreprise qui a 50 ans.
Eh oui.
Voilà, donc les peurs les déceptions sont plus à craindre, évidemment, sur des portefeuilles titrisés où il y a ce type d'entreprise plutôt nouvelle.
Évidemment, parce qu'on a beaucoup prêté à ces entreprises qui sont très consommatrices et de crédit et de capitaux,
exactement.
Mais qui n'ont pas forcément de business model très installé,
exactement.
Et pas forcément de revenus encore. C'est des promesses de revenus à chaque fois.
Voilà. Donc en fait, il faut faire très attention effectivement à la façon, enfin, ce que contient ces véhicules de titrisation. C'est peut-être pas la fin du monde, parce qu'il y a quand même une différence par rapport au subprime, c'est que vraiment le marché le prêt subprime était intrinsèquement évalué dès le départ.
Ouais.
Donc lui, c'était autre chose, c'était vraiment dès le départ, on n'avait pas le bon modèle d'évaluation. Alors que là, a priori, effectivement, là où ça pêche, c'est qu'en fait, ils n'ont pas toujours un business model très établi.
D'accord. Donc c'est pas tout à fait la même histoire que les subprimes. Donc si je comprends bien, François Hickel, alors on s'éloigne un peu des finances publiques. On est plus sur la finance de marché, mais est-ce que ça vous fait peur cette
Moi, je ne suis pas du tout un spécialiste de
crise.
Ce sujet, mais ce que vient de nous dire Nathalie, moi, ça me fait quand même penser énormément au subprime. Je suis désolé, mais c'est la même histoire. C'est-à-dire
c'est qu'on prête de l'argent à des gens qui ne peuvent pas rembourser.
Des crédits immobiliers faits par des banques, qui ne les gardent pas pour des raisons réglementaires, etc., et donc qui les refilent à des entités beaucoup moins régulées, qui à l'époque les ont mal valorisés, parce que n'ont pas tenu compte du fait que ces crédits étaient accordés à des gens banque, ils ne pouvaient pas les rembourser.
Si, si, ils le savaient, ça.
Voilà, oui, ils le savaient, ou ils le valorisaient mal. Enfin, je ne sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, le fait est que, in fine, voilà, ça s'est trouvé mal valorisé. Certains, donc voilà, ont fait faillite. Aujourd'hui, c'est un peu la même. Enfin, moi, je comprends que c'est quand même un peu la même chose. Alors, pas forcément exactement la même chose, mais.
Pas sur le même
mais
marché.
Quand même, ça y ressemble beaucoup. Et ça vient du fait qu'il y a une partie, en fait, aussi, enfin, derrière, il y a le fait que d'un côté, il y a les banques, mais c'est vrai aussi en Europe, d'un côté, il y a les banques qui sont hyper réglementées,
oui.
Et de l'autre côté, il y a, je crois qu'on appelle ça le shadow banking.
Voilà. Oui.
Des entités qui ne sont beaucoup moins, qui financent en grande partie l'économie, et les banques ont tendance à refiler du risque vers ce shadow banking, parce qu'il est beaucoup moins régulé, et globalement, ça présente quand même des risques. Enfin voilà, donc je ne suis pas rassuré.
Alors la réponse de Nathalie, puis après l'analyse. Et puis après l'analyse de Ryan Nézard.
Bon, c'est quand même pas tout à fait la même chose parce qu'on n'est pas au niveau des CDO, on est plutôt sur de la collatéralisation, enfin sur de la titrisation plutôt plus simple. Et puis effectivement,
C'est-à-dire qu'on sait ce qu'il y a dans ces.
Oui.
Ce qu'il y a dans ces produits titrisés.
Alors on sait ce qu'il y a.
C'était pas le cas à l'époque.
L'évaluation. Je suis plus rassurée parce que l'évaluation, elle a quand même lieu sur des business models, ce qui est plutôt le cœur de métier des agences de rating. Je vous rappelle qu'en fait, les agences de rating sont allées noter des prêts hypothécaires subprime qui n'étaient pas du tout leur spécialité, pour le coup. D'autant plus que les subprimes, leur valeur dépendait de l'évolution du marché immobilier.
Oui.
Et ce n'était pas du tout comme ça qu'ils étaient évalués. Donc c'est pour ça que je suis plus critique. Enfin, je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir de casse. Je dis que l'amplitude de l'asymétrie d'information entre ceux qui évaluent le produit et ceux qui le fabriquent est moins importante aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de casse. À nouveau, puisque s'il y a un taux de défaut plus élevé, il y aura forcément de la casse.
Et qui paiera s'il y a de la casse?
Alors, après, ça dépend. Y a ceux qui les ont achetés n'auront pas de revenus. C'est comme pour le reste. C'est-à-dire que le portefeuille performera moins. Et donc, c'est celui qui détient le portefeuille qui va subir les pertes, à moins qu'il ait lui-même une assurance.
Bon, Ryan Nézard.
Ouais. Non, mais je pense que Thalie Janson a raison là-dessus. Il faut être prudent. C'est-à-dire que le crédit privé aujourd'hui aux États-Unis permet quand même à des entreprises qui sont trop grosses pour les banques commerciales, mais pas assez grosses pour aller sur le marché obligataire, de se financer. Et notamment sur les fintech, sur certains domaines, entre guillemets, innovants, sur l'IA. Donc, peut avoir son utilité. Par ailleurs, les rendements, j'ai regardé ce matin, c'est quand même assez impressionnant parce que. Sur plus de 15 ans, c'est quasiment deux fois le rendement du S&P.
Oui. Ah oui. C'est très rentable.
Et d'ailleurs, la taille de ce marché depuis 2010. En fait, on peut peut-être le, je sais pas si vous le définiriez comme ça aussi, mais on peut peut-être dire que c'est aussi un marché qui s'est développé pour combler le vide laissé depuis 2010 par la réglementation bancaire, assurantielle, etc. Donc, qui répond quand même à un besoin qui est pas aujourd'hui rempli par le secteur bancaire. Et en 15 ans, la taille du marché du crédit privé a été multiplié par 15. C'est à peu près de 250 milliards de dollars.
Ah oui, il y a 2000 milliards aujourd'hui.
Ouais, ouais. Après, il y a eu des inquiétudes ces derniers mois. Il y a un exemple qu'on peut aussi citer, c'est celui du fabricant de pièces automobiles First Brands, qui avait été créé dans l'Ohio et qui a fait faillite. Et c'était 10 milliards de dollars de passifs. Et avec une exposition de certaines banques, par exemple UBS, qui était exposée à cette faillite, et d'autres établissements financiers. Donc, ce qui pose la question de la chaîne ensuite de faillite et de transmission.
Et craindre à tout le monde à nouveau les mêmes.
Exactement.
Quoi,
et de transmission
évidemment.
Au secteur bancaire classique d'une défaillance sur ce segment, on va dire plus alternatif de financement. Là où il faut être prudent, il faut pas être alarmiste, mais il faut pas non plus être complètement béat. Là où il faut être prudent, c'est que certes les valorisations sont pas toujours très bien établies, sont pas toujours aussi régulières que sur un titre classique sur le marché bancaire, que le risque systémique est plutôt difficile à anticiper. Mais aujourd'hui, le FMI, la BCE vous disent, il y a pas aujourd'hui en l'état de risque systémique, il y a pas les mêmes difficultés que pour les subprimes. Alors si on veut voir, pour terminer, le verre à contrario à moitié vide,
c'est la même chose.
On peut aussi vous dire que les subprimes c'était 1000 milliards de dollars en 2007. Là c'est 2100 milliards. Donc alors je compte pas l'inflation dans l'intervalle, mais c'est un marché qui est deux fois plus gros.
Il y a aussi beaucoup plus de liquidités en circulation.
Exactement. Ah ouais. Donc le besoin quand même de supervision, y compris de coopération entre les superviseurs et entre les acteurs financiers, ce qui est loin d'être gagné. C'est un besoin quand même qui existe si on veut garantir effectivement qu'il n'y ait pas d'asymétrie d'information telle sur ce marché que ça crée des risques systémiques.
Il faut rappeler aussi qu'à la veille des subprimes, il n'y avait pas de problème ni pour la Fed ni pour la BCE.
Voilà. Absolument.
Donc c'est pour ça que leurs avis est à prendre avec aussi des pincettes.
Le disclaimer est surligné trois fois. Parce merci beaucoup. Voilà. J'espère que vous y voyez plus clair sur ce sujet du crédit privé outre-Atlantique. Le dernier sujet, Nathalie, je me tourne vers vous, c'est un de vos dadas, vous aimez bien, c'est l'euro numérique. Moi, je n'y comprends rien à l'euro numérique. Je vais être très clair, je n'arrive pas à comprendre l'intérêt de ce chantier qui a été validé, endossé par le Parlement européen la semaine dernière. Donc l'Europe accélère sur l'euro numérique pour, dit-on, réduire sa dépendance aux géants américains du paiement. C'est un vrai sujet. Mais à quoi ça va servir vraiment? C'est quoi l'euro numérique? Et moi, ce que j'entends, c'est que quand même, c'est une traçabilité permanente. Ça a un petit impact sur notre vie privée. Les données personnelles, c'est aussi important. Mais c'est quoi l'euro numérique, Nathalie Janson?
Alors, l'euro numérique tel que ce projet le présente, c'est effectivement un équivalent numérique de votre cash. C'est-à-dire qu'effectivement, au lieu d'aller payer en cash, vous aurez un portefeuille euro de numérique et vous paierez avec. C'est émis par la Banque Centrale, c'est pour ça que je le compare au cash et non pas au compte de dépôt des banques. Puisqu'en fait, c'est compte de dépôt, c'est géré par la banque, ça lui appartient, enfin, c'est une dette qu'elle émet. Alors que là, non, c'est bien la Banque Centrale.
Donc quand je paye avec mon téléphone ou ma carte, parce que c'est pas de l'argent, pas du cash, c'est du numérique c'est des échanges informatiques. Mais c'est l'argent de la banque.
Exactement.
Là, ce sera l'argent de la Banque Centrale Européenne.
C'est ça.
Qu'est-ce que ça nous apporte de plus?
Alors, sur le papier, ça fait des années, donc certains vous diront, comme prof que j'avais croisé, de prof de finance Duffy aux États-Unis, qui m'a dit, de toute façon, Madame Christine Lagarde est obsédée à digitaliser quelque chose, parce que déjà à l'époque du FMI, elle voulait digitaliser les DTS.
Donc elle a une petite droits de tirage spéciaux qui sont les crédits, en quelque sorte, du FMI.
Donc il me dit, je crois qu'elle veut y arriver avec l'euro. Alors effectivement, on peut se poser la question, et vous n'êtes pas tout seul pour se demander, mais pourquoi donc veut-elle absolument qu'on ait du cash sur notre portefeuille, étant donné qu'on est très bien aujourd'hui, avec des millions d'applications, avec nos cartes de crédit, avec Apple Pay, voilà.
A priori, on n'a aucun problème à payer quoi que ce soit.
Il faut savoir qu'en fait, il y a eu un fait majeur. Voilà, alors il y a deux choses. Il y a eu un fait majeur en 2019, c'est la tentative de projet par Facebook du fameux Libra.
Pas une crypto-monnaie, mais une monnaie privée.
En fait, c'était l'équivalent d'une monnaie stable, un contrat. Et au lieu de le faire avec... Il avait envisagé le projet multi-devises. On va faire bref. En fait, le fait même d'avoir développé ce projet a réveillé les banques centrales qui se sont dit « Mon Dieu, j'ai un acteur privé qui pourrait faire un équivalent de monnaie comme la mienne, mais
privée. » Privatiser la monnaie, en fait.
Oui.
Et donc, s'en est suivi une course. La Chine est partie.
Il y a une grande bataille entre le pouvoir public et privé. Effectivement, c'est exactement ce que dit Ariane Nézard, une privatisation de la monnaie qui est dans l'ADN constitutif des États.
Oui. Alors que bon, faut quand même dire qu'aujourd'hui, la part vraiment publique de la monnaie, elle n'est pas si importante que ça, puisque il y a que les réserves des banques et puis finalement le cash qu'on détient. Le reste, c'est de la monnaie privée, les cartes de crédit, les comptes, tout ça. Enfin bon, bref. Voilà. Donc, quand ils ont réalisé que finalement, ils pouvaient être concurrencés dans le cœur même de leur mission, la Chine est partie la première à créer son Digital Yuan qui existe aujourd'hui.
Ce sont les premiers.
C'est les premiers à l'avoir fait, qui étaient vraiment très en colère contre cette initiative. Ils se sont dit, il faut absolument qu'on dame le pion à tout le reste. Donc, ils sont allés là-dessus. Je pense que dans leur petite idée, ils se sont dit, si je me mets dessus en premier, comme par ailleurs, la monnaie chinoise n'est pas très internationale, ils se sont dit, je vais gagner des parts de terrain en étant la monnaie digitale nativement internationale en premier, et je vais pouvoir avoir des aficionados. À l'issue de ça, l'Europe, qui veut jamais se retrouver en reste, se sont dit, il va falloir que je fasse pareil. Les États-Unis, au début, se sont dit, pourquoi pas, mais eux ont eux-mêmes des monnaies stables qui existent privées, qui sont Tether et Circle, et avec Donald Trump a décidé qu'il n'y aurait pas de dollars électroniques. On en est donc aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne, donc on comprend bien, c'est plutôt un combat politique et géopolitique sur la scène internationale pour essayer d'avoir un euro qui continue à avoir une place, qui existe. Le dollar n'a pas besoin de prouver, il est déjà là,
il est relayé
par la monnaie stable privée. Donc en fait, ce que
donc c'est une question de survie, ce que vous nous dites, Nathalie Janson, de l'euro sur la scène internationale,
oui,
comme monnaie de change.
Mais elle n'avait pas forcément besoin de faire un retail, comme on le dit, c'est-à-dire pour vous et moi, elle aurait pu faire autrement. Mais en tout cas, c'est ce qu'elle a choisi aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous en pensez, M. Ricard?
Alors, moi, je ne suis pas non plus un spécialiste de ce sujet, mais ce que je comprends, c'est que face à l'argument qui consiste à dire y a pourquoi faire un euro numérique alors qu'on a des tas de moyens de paiement. On a des cartes, on a Apple Pay, etc.
Souveraineté européenne nous dit...
Apple Pay, voilà. C'est américain. Les cartes, Visa, ESA, c'est américain.
On a CB, on a quand même le réseau CB, oui.
Mais qui est beaucoup moins utilisé. Voilà, c'est essentiellement américain, d'où le résultat dont on parle beaucoup, par exemple, c'est ce juge de la Cour de justice internationale qui ne peut plus rien payer parce que les Américains ont décidé qu'on lui retirait ses cartes de crédit, c'est Apple Pay, il n'y a plus, et c'est là. C'est terminé, voilà. Donc le risque, il est là. Alors par rapport à ça, donc, je comprends en effet que la Banque Centrale Européenne puisse faire une espèce de porte-monnaie numérique en euros, etc. Mais ce que je comprends aussi, c'est que les banques européennes disent « Oui, mais nous, on est aussi capables de faire la même chose. »
Ben, c'est ça, est-ce que ça peut fragiliser les banques?
Alors, oui, forcément, parce que si ça se développe, et la BCE, moi, si j'ai bien compris, prend bien garde de dire, oui, mais de toute façon, vous ne pourrez pas payer grand-chose avec cet euro numérique. Ça va être plafonné. Ça va être plafonné, je ne sais pas combien, etc.
On dit 3 000 par moment.
Si, en effet, on pouvait faire n'importe quoi avec cet euro numérique, il y aurait un gros problème pour les banques commerciales. Parce que toutes les transactions passeraient par les comptes des comptes à la BCE, etc. Donc, les banques commerciales disent, non, elles ne veulent pas. Nous, on peut faire la même chose. Mais le problème, c'est qu'elles sont multiples. Des banques commerciales, il y en a des dizaines, des centaines en euros. Donc, il faut qu'elles se mettent d'accord. Et donc, la BCE dit, d'accord, mais mettez-vous d'accord. Et comme elles n'arrivent pas à se mettre d'accord, la BCE dit, on commence.
Et du coup, j'accélère.
Donc, on est dans ce débat. Pour moi, je ne suis pas un spécialiste.
Donc, 3 000 euros plafonnés, oui. C'est-à-dire qu'on pourra tous avoir un portefeuille BCE avec 3 000 euros dessus et on pourra acheter...
C'est le projet actuel, parce que là, le trilogue au niveau des négociations européennes entre le Conseil, la Commission et le Parlement ne fait que commencer. Oui. Juste pour revenir sur ce qui a été dit, je suis mille fois d'accord, c'est un enjeu de souveraineté, mais il faut le mesurer. Alors, ça paraît être un objet technique, l'euro numérique. En réalité, demain, la capacité à potentiellement en 2029, c'est ce qui est prévu, à payer avec son téléphone ou une carte avec un euro numérique, c'est-à-dire sans dépendre des banques, qu'elles soient européennes, américaines, quelle que soit leur nationalité, sans dépendre de solutions de paiement le plus souvent américaines. Visa et Mastercard, c'est 70% des paiements dans l'Union européenne. Donc ça, c'est un enjeu de souveraineté absolue, réel, et c'est pas une surprise que la Chine ait choisi d'aller sur ce terrain bien avant nous. Donc de ce point de vue, si on ne veut pas dépendre d'une infrastructure étrangère pour ce qui concerne la monnaie, qui est un des éléments de souveraineté les plus fondamentaux.
Mais là, vous parlez des
défense.
Moyens de paiement. Encore une fois, les moyens de paiement, je suis désolé, on a le groupement carte bancaire en France et en Europe.
Oui, mais deuxième élément, et c'est le deuxième point. Bien sûr, on pourrait faire sans la BCE, c'est ce que vous dites. Mais il y a un deuxième élément, c'est que le fait d'avoir des paiements instantanés, et c'est pas ce qui est prévu à ce stade par le texte, mais d'avoir des paiements sans frais de gestion, ça, c'est un grand changement. Et c'est ça qui, en fait, en réalité, fait peur aux banques. C'est-à-dire que les banques commerciales vont potentiellement perdre. Si ce projet d'euro numérique allait jusqu'au bout de sa philosophie, elles pourraient perdre toute une manne qui est la gestion des comptes.
Ah bah de la banque de détail, quoi. Exactement. Si on fait simple.
Aujourd'hui, c'est pas ce que prévoit le projet.
De revenus, quand même.
En réalité, le projet d'euro numérique qui est mis sur la table par la Commission est plutôt minimaliste, c'est-à-dire qu'il y a un plafond à 3 000 euros par personne, c'est quand même très faible, vous n'allez pas pouvoir réaliser des achats sur des éléments importants. Et deuxièmement, vous avez un maintien pendant 5 à 10 ans de frais de gestion, qui seraient indexés sur les frais de gestion des banques. Donc en fait, c'est un euro numérique à minima, ce qui est proposé, ce qui est aujourd'hui mis sur la table. De mon point de vue, il faudrait aller beaucoup plus loin. Mais en tout cas, on comprend bien les réticences des banques commerciales, mais à mon avis, tout ça ne peut être qu'au bénéfice des Européens à une condition, et j'en termine par là, c'est évidemment la protection de leurs données personnelles.
Bah voilà, il y a un sujet de traçabilité quand même.
Oui, mais sauf que autant le portefeuille est connu par le titulaire du portefeuille est connu par la BCE, autant les transactions n'ont pas à être connues. C'est pas on va pas avoir une blockchain sur laquelle
il semblait, on saura Raphaël Lejean a acheté. C'est ce que j'avais compris, qu'on pouvait tracer absolument tout de A à Z sur les paiements et à qui appartient l'euro. Oui.
Mais c'est pas ce que prévoit le texte, et heureusement, ça n'a pas à être un Big Brother numérique.
Nathalie Janson, la protection des données à génération libre, c'est un sujet que vous traitez régulièrement, important.
Oui.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas une crainte là-dessus?
Si, parce que de toute façon, la BCE effectivement dit aujourd'hui que ça sera géré et qu'effectivement ça sera géré de façon séparée et qu'elle ne va pas regarder. Mais bon, ça c'est ce qu'elle dit aujourd'hui.
Bah, voilà.
Et voilà, c'est tout le problème de la gestion des données.
Bah, oui,
et en effet, je pense que ce serait mieux d'avoir la gestion inverse, c'est-à-dire la gestion du côté de l'utilisateur, c'est-à-dire que c'est à lui de décider si vous allez regarder ou pas ces données. Donc qu'on soit propriétaire de ces données, ce serait nettement mieux. Mais c'est vrai que dans ce débat, il y a toute cette dimension où tout ce qu'on fait aujourd'hui en disant voilà, ça va se passer comme ça, mais le jour où quelqu'un de malveillant arrive, ça va se passer comment? Alors on va me rétorquer aussi que de toute façon on nous trace déjà, et c'est vrai, vos paiements sont tracés, mais effectivement c'est moi qui librement le fais, puisque j'accepte d'aller sur Mastercard. Si vraiment je veux rien faire, je peux retirer de l'argent et vivre avec du liquide. Je peux encore
c'est
le faire en tout cas en
fait aujourd'hui. Hein.
Comment?
C'est très compliqué, mais
vous êtes surveillé aussi, puisque vous avez, pour des raisons de contrôle de l'argent, enfin de tout ce qui est
commercial
et du blanchiment. Oui. Vous êtes maintenant, vous ne pouvez pas utiliser.
Oui, au-delà
du liquide,
de 1 000 euros, de toute façon, oui, tout oui. Est
alors,
envoyé à très.
Pour la petite histoire, ce qui est intéressant, il faut savoir que on aurait pu choisir de ne pas faire 1 euro de détail, mais uniquement 1 euro, ce qu'on appelle de gros, c'est-à-dire...
Alors, c'est ce que j'avais entendu.
Voilà. Et moi, qui me semble être un truc beaucoup plus simple à plein de niveaux. Parce qu'effectivement, il est vrai qu'aujourd'hui, la blockchain monte. Donc, cette blockchain, elle est très utile, elle est très efficace, puisque, comme vous l'avez dit, elle permet des paiements très rapides. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pas beaucoup de frais, enfin, des frais minimes. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a les blagues de Pâques comme de Noël, où si vous ne faites pas un virement le mercredi, il arrivera que jeudi prochain. Donc, effectivement, avec la blockchain, ça n'existe plus. Donc, les banques, comme la Banque Centrale sent bien qu'il y a une pression, et c'est bien pour ça qu'elles veulent moderniser. Elle aurait pu très bien moderniser toute son infrastructure avec les banques sans avoir d'euro numérique. Elle aurait blockchainisé la structure de là où il y a les autoroutes de paiement entre banques et avec la Banque Centrale et avec les autres banques centrales. D'ailleurs, on peut tout, et d'ailleurs, c'est vers ça qu'on s'achemine de toute façon, sans en passer par une version numérique. Donc, effectivement, la version de détail, désolé. Donc, la version de détail, c'est vraiment pour dire je veux exister en tant que moyen pour, effectivement, les individus et les citoyens. Et effectivement, c'est plutôt une histoire d'image et d'image de marque.
Ça marche, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Nathalie Janson, c'était très clair, professeur d'économie à Neoma Business School. Merci François Eckal, fondateur de Fipeco.fr, et merci Ryan Nézard, professeur à Sciences Po. Cette émission passionnante est disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business. Tout de suite, c'est Air et Défense, Jean-Baptiste Huette. Quant à nous, on se retrouve demain, 9h30, en direct sur BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.